Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc ce soir dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Lampedusa, Le Guépard. Pour le prince, le jardin parfumé fut la cause de sombres associations d'idées. Maintenant, cela sent bon. Mais il y a un mois, il se souvenait avec dégoût des relents douxâtres qui se répandaient à travers toute la villa et dont on avait enfin découvert la cause. Un jeune soldat du 5e bataillon de chasseurs, blessé par les rebelles dans la mêlée de San Lorenzo, était venu mourir, solitaire, sous un citronnier. On avait trouvé le cadavre à plat ventre, au milieu du trèfle épais, le visage enfoncé dans le sang et les vomissures, les ongles crispés dans la terre, noirs de fourmis. Sous les bandoulières, les intestins violets avaient formé une mare. Il l'avait retourné et avait étendu son mouchoir rouge sur le visage. Puis, avec une inquiétante dextérité, il avait renfoncé les entrailles dans la déchirure du ventre à l'aide d'une branche et caché la blessure sous les plis de la capote, le tout en crachant de dégoût sans désemparer, non pas exactement sur le cadavre, mais fort près. « La puanteur de ces charognes ne cesse même pas après leur mort, » disait-il. Ce fut la seule horizon funèbre suscitée par cette mort misérable. Quand ses camarades, gauchement, l'eurent emporté, et ma foi, il l'avait traîné par les épaules jusqu'à la charrette, si bien que le rembourrage du pantin avait jailli encore une fois de son ventre. On ajouta au rosaire du soir un De Profundis pour le repos de son âme. Et l'on n'en parla plus. La conscience des femmes de la maison était apaisée. Le prince gratta un peu de lichen sur les pieds de la flore et se mit à marcher de long en large. Le soleil couchant projetait son ombre immense sur les plates-bandes funèbres. Bien sûr, on ne parlait plus du mort. Au bout du compte, les soldats sont faits pour mourir en défendant leur roi. Mais l'image de ce corps éventré surgissait souvent dans le souvenir du prince comme pour demander un apaisement qu'on ne pouvait lui donner qu'en dépassant et en justifiant son martyre par une nécessité générale. Autour de lui surgissaient d'autres spectres, guère plus attrayants. Mourir pour quelqu'un passe encore, c'est dans l'ordre des choses. Mais au moins il faut être sûr qu'on saura pour qui ou pourquoi on est mort. Voilà ce que demandait ce visage profané. Et là, on commençait à se perdre dans le brouillard. Mais il est mort pour le roi, cher Fabrice, c'est clair, aurait répondu au prince son cousin Malvica. Malvica était le porte-parole que choisissait la foule de ses amis. Pour le roi, qui représente l'ordre, la continuité, la décence, l'honneur. Pour le roi qui seul défend l'Église, qui seul empêche le démembrement de la propriété, fin suprême de la secte. Ces paroles magnifiques étalaient en plein jour ce qui était enraciné au plus profond du cœur de Don Fabrice. mais quelque chose sonnait faux. Le roi, oui, bien sûr, il le connaissait. Tout au moins celui qui venait de mourir, le roi actuel n'étant qu'un séminariste vêtu en général. Mais il ne valait vraiment pas grand-chose. « Tu raisonnes de travers, Fabrice, répliquait Malvika. Il est possible qu'un souverain, qui n'est qu'un individu, ne se montre pas à la hauteur. Mais l'idéal monarchique, lui, reste immuable. » Exact. Mais les rois qui incarnent un idéal ne peuvent tout de même pas descendre de génération en génération au-dessous d'un certain niveau. Sinon, cher beau-frère, l'idéal lui-même en pâtit. Assis sur un banc, il contemplait inerte les dévastations que Bendico opérait dans les plates-bandes. De temps en temps, le chien levait vers lui des yeux innocents et semblait réclamer des louanges pour le résultat de ses peines. 14 œillets brisés, une demi-haie dévastée, un canal d'irrigation obstrué, il avait vraiment l'air d'un humain. « Ça va, Bendico, viens ici !» Et la bête accourait, posait des pattes terreuses sur sa main pour bien montrer qu'elle lui pardonnait d'avoir interrompu aussi sottement ce beau travail. Les audiences. Les innombrables audiences que le roi Ferdinand lui avait accordées à Caserte, à Capodimonte, à Portici, à Naples, au diable ! À côté du chambellan de service qui vous guidait son bicorne sous le bras et les plus impertinentes grossièretés napolitaines sur les lèvres, on traversait d'interminables salles à l'architecture admirable, au mobilier écœurant. Image exacte de la monarchie bourbonienne. On enfilait des couloirs crasseux et de petits escaliers mal tenus, et l'on débouchait finalement dans une antichambre où de nombreuses personnes attendaient déjà. Visage fermé de sbires, visage avide de quémandeurs. Le chambellan s'excusait, vous faisait contourner l'obstacle du vulgaire et vous conduisait vers une autre antichambre réservée aux gens de cour. Une petite pièce azur et argent datant de Charles III. Après une brève attente, un laquais grattait à la porte et l'on était admis en l'auguste présence. Le bureau privé était petit et prétentieusement simple. Sur les murs blancs s'étalait un portrait du roi François Ier et un autre de la reine actuelle, l'air aigre et coléreux. Au-dessus de la cheminée, une Madone d'Andrea del Sarto semblait fort étonnée de se voir entourée de gros mots représentant des saints de troisième ordre et des sanctuaires napolitains. Une veilleuse brûlait devant un enfant Jésus posé sur une console. Des papiers blancs, jaunes, bleus jonchaient une table modeste. C'était toute l'administration du royaume arrivée à sa phase finale, celle de la signature de Sa Majesté. Derrière ce barrage de paperasse, le roi, déjà debout pour ne pas montrer qu'il se levait, le roi, avec sa grosse face blême entre des favoris blondasses, vêtu d'une jaquette militaire de drap grossier sous laquelle coulait la cascade violette des pantalons en accordéon. Il faisait un pas en avant, la droite tendue, pour un baise-main qu'il allait d'ailleurs refuser. « Tiens, Salina, heureux les yeux qui te voient !» Son accent napolitain était encore plus savoureux que celui du chambellan. Je prie Sa Majesté de bien vouloir excuser ma tenue. Je suis de passage à Naples, et je ne voulais pas manquer de venir lui présenter mes hommages. Salina, tu déraisonnes. Tu sais pourtant bien qu'à Caserte, tu es comme chez toi. Comme chez toi, oui, répétait-il, en s'asseyant derrière son bureau. Il attendait un court instant avant de faire asseoir son hôte. « Et les fillettes, que font-elles ?» C'était le moment de placer une plaisanterie équivoque, à la fois grivoise et bigote. les fillettes, sire, à mon âge, et dans les liens sacrés du mariage. » La bouche du roi riait, tandis que ses mains rangeaient sévèrement des papiers. « Loin de moi cette idée, Salina, je voulais dire tes filles, les petites princesses, Conchetta, notre chère filleule, doit être grande maintenant, une vraie demoiselle. » De la famille, on passait à la science. « Un homme comme toi, Salina, fait honneur non seulement à lui-même, mais à tout le royaume. » La science est une bien grande chose quand elle ne se met pas en tête d'attaquer la religion. Après quoi, on déposait le masque de l'ami pour assumer celui du souverain sévère. Dis-moi, Salina, que dit-on en Sicile de Castelcicciala? Salina en avait entendu raconter pique-pendre, aussi bien du côté conservateur que du côté libéral, mais il ne voulait pas trahir un ami. Il éludait, il restait dans les généralités. Gentilhomme, blessure glorieuse, peut-être un peu trop âgé pour les fatigues de la lieutenance. Le roi s'assombrissait. Salina ne voulait pas faire l'espion. Salina lui était inutile. Les mains appuyées à la table, il se préparait à le congédier. « Ah, j'ai tant à faire, tout le royaume repose sur mes épaules. » Il était temps de dorer un peu la pilule, le masque amical ressortait du tiroir. « Quand tu repasseras à Naples, Salina, viens montrer Conchetta à la reine. Je sais qu'elle est trop jeune pour être présentée à la cour, mais rien ne s'oppose à un petit repas privé. Macaroni et belle-fille, comme on dit. « Adieu, Salina, porte-toi bien. » Une fois pourtant, le congé fut menaçant. Le prince avait déjà fait sa seconde révérence, marchant à reculons, lorsque le roi le rappela. « Écoute un peu, Salina, on dit qu'à Palerme, tu as de mauvaises fréquentations. Ton fameux neveu Falconeri, pourquoi ne le fais-tu pas marcher droit ?» « Mais, sire, Tancrède ne s'occupe que des femmes et des cartes. » Le roi perdit patience. « Salina, Salina, tu déraisonnes. C'est toi le responsable, tu es son tuteur. Dis-lui de se tenir tranquille. Adieu. » En refaisant l'itinéraire fastueusement médiocre qui le menait chez la reine pour la signature du registre, il se sentit envahi par le découragement. Il était déprimé autant par la plébéienne cordialité du roi que par sa sournoiserie policière. Ses amis avaient bien de la chance. S'ils arrivaient à interpréter la familiarité royale comme une marque d'amitié, les menaces comme une preuve de puissance, pour lui, c'était impossible. Et tandis qu'il échangeait quelques médisances avec l'impeccable chambellan, il se demanda qui succéderait à cette monarchie dont le visage portait déjà les signes de la mort. Le piémontais, celui qu'on appelait le roi honnête homme et qui faisait tant de tapage dans sa petite capitale du diable Vauvert. Ne serait-ce pas la même chose ? Dialecte turinois au lieu de dialecte napolitain, un point, c'est tout.
Don Gomar!
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et nous revoici de nouveau pour la suite du roman de Lampedusa, Le Guépard. Le repas chez les Salina était servi avec un faste ébréché qui s'accordait au style du royaume des deux Siciles. Le nombre des convives, 14, en comptant les maîtres de la maison, leurs enfants, les gouvernantes et les précepteurs, donnait déjà à table un caractère imposant. Recouverte d'une nappe très fine mais reprisée, cette table resplendissait à la lumière d'une puissante lampe carcelle suspendue de façon précaire sous un lampadaire de Murano. La lumière entrait encore à flot par les fenêtres, mais les silhouettes blanches sur fond sombre qui jouaient les bas-reliefs au-dessus des portes se perdaient déjà dans l'ombre. L'argenterie était massive, et les splendides verres de bohème portaient sur un médaillon lisse au milieu des facettes le chiffre FD, Ferdinandus d'Edith, en souvenir d'une munificence royale. Mais les assiettes, marquées chacune d'armes illustres, provenaient de services disparates. C'étaient les survivantes de massacres perpétués par les marmitons. Les plus grandes, en très beau capondimonte à large bordure vert amande, ponctuée d'encre dorée, étaient réservées au prince, qui aimait s'entourer d'objets à son échelle, sa femme exceptée. Tout le monde était déjà là quand il entra dans la salle à manger. La princesse seule était assise, les autres restaient debout. Devant le couvert du prince, parmi un cortège de plats, s'élargissaient les flancs d'argent d'une énorme soupière au couvercle surmonté du guépard dansant. Le prince servait lui-même la soupe, agréable de voir, symbole des attributions nourricières du pater familias. Ce soir-là, on entendit la louche tinter de façon menaçante contre les parois de la soupière. Cela n'était pas arrivé depuis longtemps. C'était le signe d'une grande colère encore contenue. 40 ans plus tard, un fils survivant raconterait que c'était un des bruits les plus effrayants de la maison Salina. Le prince s'était aperçu que François Paul, son fils de 16 ans, n'était pas encore à sa place. Le jeune garçon entra au même instant. « Excuse-moi, papa !» et s'assit. Il ne reçut aucun reproche, mais le père Pirone, qui avait à peu près les fonctions d'un chien de berger, baissa la tête et se recommanda à Dieu. La bombe n'avait pas explosé, mais le souffle de son passage avait glacé les convives et le repas était manqué. Tandis que l'on mangeait en silence, les yeux bleus du prince à demi fermés fixaient ses enfants un à un et les rendait muets de crainte. Lui, cependant, pensait « belle famille ». Les filles dodues, florissantes de santé avec leurs fossettes malicieuses, avaient entre le front et le nez ce fameux froncement, marque atavique des Salina. Les garçons, minces mais forts, portaient sur leur visage la mélancolie à la mode, maniaient leur couvert avec une violence disciplinée. L'un d'eux manquait depuis 2 ans. Jean, le cadet, le plus aimé, le plus difficile. Un beau jour, il avait disparu et pendant 2 mois n'avait donné aucune nouvelle. Puis arriva de Londres une lettre froide et respectueuse, où il demandait pardon pour les angoisses qu'il avait causées, donnait des nouvelles rassurantes de sa santé et affirmait étrangement qu'il préférait la modeste vie de commis dans un entrepôt de charbon à une existence trop choyée. lisée étouffante. Au sein du bien-être palermitain. Ce souvenir et l'anxiété qu'il ressentait en pensant à son enfant errant dans le brouillard enfumé d'une ville hérétique pincèrent douloureusement le cœur du prince qui souffrit beaucoup. Il s'assombrit encore davantage. Il s'assombrit tant que la princesse assise à son côté tendit sa menotte enfantine et caressa la puissante patte qui reposait sur la table. Geste inattendu qui déchaîna une série de sensations, l'irritation de se voir plein et une sensualité qui s'éveillait soudain mais sans aller vers celle qui l'avait fait naître. En un éclair, l'image de Marianina, la tête enfoncée dans l'oreiller, apparut au prince. Il éleva sèchement la voix. « Domenico, commanda-t-il au serviteur, va dire à Don Antonio d'atteler les baies au coupé. Je descends à Palerme dès la fin du repas. » Les yeux de sa femme devinrent vitreux, et il se repentit immédiatement de son ordre. Mais il ne pouvait revenir sur ce qu'il avait publiquement décidé et insista, ajoutant l'ironie à la cruauté. « Venez avec moi, mon père. Venez avec moi, nous serons de retour à 11 heures. Vous pourrez donc passer 2 heures à la maison mère avec vos amis. » Une promenade à Palerme de nuit en ces temps de désordre n'avait manifestement qu'un seul but, une aventure galante de l'espèce la plus basse. Et l'invitation lancée au prêtre de la maison était le comble de l'insolence, une véritable offense. Du moins, c'est ainsi que l'entendit le père Pirone. Il se sentit donc offensé. Mais naturellement, il céda. La dernière nefle était en train de disparaître, que l'on entendait déjà rouler la voiture sous le porche. Tandis que la femme de chambre donnait son haut de forme au prince et son tricorne aux jésuites, la princesse, sans chercher à dissimuler les larmes qui lui montaient aux yeux, fit une dernière tentative, plus vaine que jamais. « Mais Fabrice, par les temps qui courent, et avec ces rues pleines de soldats, pleines de malandrins, il peut arriver malheur. » Il ricana. Sottise, Stella, sottise. Que veux-tu qu'il m'arrive? Tout le monde me connaît. Des hommes de mon gabarit, il y en a peu à Palerme. Adieu. » Et il posa un baiser rapide sur ce front encore lisse qui venait au niveau de son menton. Cependant, soit que l'odeur de cette peau eût éveillé en lui de tendres souvenirs, soit que le pas recueilli du père Pirone, marchant derrière lui, eût évoqué quelque pieux sermon, il se sentit de nouveau faiblir en arrivant devant le coupé. Juste à ce moment, tandis qu'il ouvrait déjà la bouche pour dire de dételer, un cri violent « Fabrice, mon Fabrice !» lui parvint par une fenêtre ouverte, suivi de plaintes aiguës. La princesse avait une de ces crises hystériques. « En avant » dit-il au cocher, assis sur son siège, le fouet en diagonale sur son ventre. « En avant, allons à Palerme, poser le révérend à la maison mère. » Il claqua la portière avant que le laquais eût eu le temps de la fermer. Il ne faisait pas encore nuit. La route s'allongeait toute blanche entre de hauts murs. Peu après la sortie de la propriété Salina, on apercevait, à gauche, la villa à moitié en ruine des Falconeri, qui appartenait à Tancrède, le neveu et pupille du prince. Un père prodigue, beau-frère du prince, avait dissipé tout son patrimoine, après quoi il était mort. Ça avait été une de ces ruines totales, à la suite desquelles on fait fondre jusqu'au galon d'argent délivré. À la mort de sa mère, le jeune garçon, alors âgé de 14 ans, fut confié par le roi à la tutelle de son oncle Salina. Cet enfant, d'abord presque inconnu, devint très cher à l'irritable prince qui découvrait en lui une gaieté turbulente, un tempérament frivole, soudain contredit par des crises de sérieux. Sans oser se l'avouer, il aurait voulu l'avoir comme héritier plutôt que ce benêt de pôle. Maintenant, à 20 ans, Tancrède se donnait du bon temps avec la pension que son tuteur lui versait sans lésiner, y ajoutant même quelques pièces de sa poche. « Qu'est-il encore en train de manigancer, ce garnement ?» pensait le prince, tandis que la voiture longeait la Villa Falconeri. Dans l'obscurité, elle avait un air de faste trompeur, grâce à un énorme bougainvillier qui débordait des grilles en cascade de soie épiscopale. Qu'est-il encore en train de manigancer ? Car si le roi Ferdinand avait eu tort de parler de mauvaise fréquentation de Tancrède, il avait en un sens eu raison d'y penser. Pris dans un tourbillon d'amis joueurs, d'amis de conduite légère que séduisait son charme gracile, Tancrède en était arrivé à avoir des sympathies pour la secte, des relations avec le comité national clandestin. Peut-être même en recevait-il de l'argent, comme il en recevait de la caisse royale. Il avait fallu faire des pieds et des mains, il avait fallu des démarches personnelles pour épargner de sérieux ennuis aux garçons après les incidents du 4 avril. La situation n'était guère brillante. Mais Tancrède n'avait jamais tort aux yeux de son oncle. Selon le prince, en effet, le jeune homme n'était pas responsable. La faute en était plutôt à la situation du moment, situation absurde, qui faisait qu'un jeune homme de bonne famille n'avait même plus la possibilité de commencer une partie de Pharaon sans trébucher dans des amitiés compromettantes. Triste temps. Voilà, nous avons terminé pour ce soir la lecture donc de ce début du roman de Lampedusa, Le Guépard, que nous retrouverons dans nos prochaines lectures. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.